got you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Aïssa Toundo, Jean-Christophe Brianchon, Boris Pinault, Lucille Como, Grégoire Di Fiore. La prise de son assurée ce soir par Alexandre Dang. La réalisation signée Daniel Finot. Autour de moi, deux petits nouveaux dans l'émission. Pas vraiment à la radio. Mathilde Serrel et Philippe Azouré. Et puis un vieux de la vieille, Hugo Cassavetti.
Très vieux.
Ouais, mais toujours cette mèche rebelle que je vous envie.
Très vieille,
évidemment. À notre affiche ce soir, l'exposition Barbara à la Philharmonie de Paris, Lilies de Mélanie de Biasio et Love What Survives de Mount Kimby. Présent également ce soir, Boris Pinault qui surveille déjà le film Twitter Dispute FC pour donner à entendre vos commentaires et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour l'avant-première du film Makala d'Emmanuel Gras. Avant-première qui aura lieu le 5 novembre à 19h30 au Forum des Images à Paris. C'est le festival de la SCAM, les étoiles du documentaire. Et nous ouvrons cette émission avec l'exposition Barbara à la Philharmonie de Paris. Clémentine de Rodi est la commissaire de l'exposition, dont la scénographie est signée Antoine Fontaine et Christian Marty.
Ce soir, c'est musical, là. Il va falloir bouger un peu, là.
Und dabei blüht auch dort die Liebe, in Göttingen, in Göttingen.
Il faut refaire une salle, réhabiter, redonner une âme.
Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image. C'était fou déjà, et le cœur nu. Je refaisais mes bagages et poursuivais mon virage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route, j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importait décembre si c'était pour vous? Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route. Celle-là qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure si ce soir je vous jure que pour vous je lui fête à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, que l'hiver ou la neige à mon cou, pour que je perde patience et je calme ma violence. Ma plus belle histoire d'amour.
La plus belle histoire d'amour sont bien sûr les auditrices et les auditeurs de la dispute. Archives vidéo rares, parfois inédites, textes de chansons, c'est la correspondance intime, photographies, costumes de scène, journaux, programmes de concerts. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cette exposition consacrée à la chanteuse disparue il y a 20 ans, presque, le 24 novembre 1997. Alors, ça déroule son parcours de façon très chronologique, de l'enfance à la mort. Mathilde Serrel, vous êtes déjà exprimée dans les matins. À l'heure où je ne suis pas levé, mais je vous écoute en replay, bien sûr. Sur cette exposition Barbara, vous nous faites le guide pour commencer?
Le guide, c'est simple, il s'agit de passer derrière le rideau, tout naturellement. C'est une scénographie qui est conçue par des décorateurs de cinéma, hein, faut le rappeler, qui avait accompagné déjà la commissaire d'expo sur Brassens, à la Philharmonie déjà. Et oui, on va passer derrière le rideau parce qu'on a le même problème qu'avec le film d'Amalric, c'est-à-dire comment...
Ça y est, ça commence, non, le même problème.
C'est-à-dire comment...
Le même problème se pose, vous voulez dire?
Le même problème se pose au départ. L'icône, la dame en noir, cette espèce de spectre, cette image écran, avec des expositions musicales qui peuvent finir en exposition fétiche. Vous savez, moi, j'ai pas trop aimé, par exemple, l'expo chapeau bouille, beaucoup trop de costumes, beaucoup trop de choses de fan, on va dire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour dire autre chose que ce qu'on sait déjà sur Barbara? Et moi, ce que j'aime dans cette exposition, c'est qu'on suit la chronologie de ce que j'ai appelé, parce que je me cite moi-même, et je pense que c'est comme ça qu'on peut avancer dans le milieu des critiques. Débute. Et donc, il me semble qu'elle construit son corps. Parce qu'on lui prend, en fait, effectivement, à l'âge de 10 ans, des circonstances dramatiques avec son père. On ne va pas revenir dessus, mais c'est quand même un élément clé. Il faudra quand même le faire. Et à partir du moment où on la prive, finalement, de ce corps, il va falloir qu'elle s'en invente un autre. Un corps qu'elle va d'abord faire avec son piano, qui va être une sorte de carapace et de partie intégrante.
Et d'extension.
Elle va vouloir devenir pianiste chantante, puis femme qui chante. Mmh. Et elle met beaucoup de temps avant d'être à la fois cette pianiste et cette femme. Et elle le devient avec le morceau Nantes, qui, comme par hasard, est un adieu à son père. Et elle le dit, qu'elle se sent enfin respirer et qu'elle est enfin une femme qui chante. Ensuite, c'est le corps de cette femme avec son public qui va partir comme ça en extension et finir dans une grande salle avec l'immense piano de Barbara. Et là, c'est le troisième personnage, en fait, après la petite Monique, Barbara, c'est le public.
Voilà un beau résumé. Hugo Cassavetti, qui a aimé aussi cette exposition,
ouais,
on a pu le lire dans Télérama.
Je reprendrai le mot qu'emploie Mathilde, c'est justement, ça peut être le plus basique, et en même temps c'est ce qui fonctionne, c'est la chronologie. La chronologie et les rideaux. Moi c'est vrai que je suis pas fou des expos sur les artistes, les chanteurs et tout ça. Bon, oui, j'avais aimé, mais bon, en bon snob à Londres, mais pas... Non, mais la scénographie,
c'est aussi, c'est important,
la scénographie
dans
la à la philharmonie était ratée, je pense, parce que c'est très éclaté dans tous les sens, et effectivement, tout est accumulé. Et là, je trouve qu'il y a une sobriété, il y a quelque chose, là, ce couloir, là, qui, voilà, c'est vrai que j'ai écrit, dire, on a l'impression d'entrer dans un train fantôme, mais amical, où on pénètre, et tout de suite, on est exactement... Moi, je suis pas un spécialiste de Barbara du tout, et j'en connais beaucoup, mais ça m'a, j'ai l'impression juste de la suivre. Et ce que j'ai apprécié dans cette expo, c'est de, justement, il n'y a pas un excès d'analyse, de choses comme ça. On est juste avec elle. On suit son parcours. Effectivement, on commence. Alors, quand Mathilde dit qu'il y a deux corps, je pense qu'il y a trois corps. J'en vois juste un. Le début, on est assez surpris quand on la connaît mal par ce corps légèrement, on va dire, un peu replet, avec des longs cheveux, qu'elle a à la période belge. Et tout de suite, elle devient, et c'est là où ça y a une rupture, elle passe de Monique Serre à Barbara, avec, voilà, cette silhouette qu'on a connue et qu'on a connue toute sa vie, quasiment, les cheveux courts. Mais je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas de... Comment dire, on n'est pas éparpillé du tout. On est très concentré et toute l'émotion que moi j'ai ressentie, je ne m'attendais pas forcément, je la ressens assez peu dans ce genre d'expo, c'est ce suivi et que surtout, presque tout ce qu'on entend, c'est elle, c'est sa voix. Et c'est un peu, alors le seul parallèle qui me vient à l'esprit, c'est un peu, j'ai beau avoir lu 12 000 trucs et me passionner pour Dylan, je pense que rien ne m'a autant appris sur Dylan que de lire ses chroniques, même si elles sont fausses. Parce que c'est là, on l'entend pas. Mais non, mais parce qu'on sait, les gens disent oui, mais il racontait, mais c'est pas grave. J'ai jamais entendu sa voix autant à part que dans ses disques. Et là, il y a quelque chose d'entendre sa voix, de la voir parler, de la voir dans ses excès. Et voilà, on évoquait le Amalric. Moi, le Amalric n'a pas fonctionné du tout pour moi. J'ai pas été ému une seconde, quoi. On sent une espèce d'exercice de tourner dans tous les sens, de mettre en parallèle la vraie Barbara, la fausse, l'hystérie. Et puis, à un moment, on s'en fout de cette histoire de réalisateur. Là, au contraire, j'étais beaucoup plus proche d'elle que pendant deux heures d'un film. Et surtout, ce passage, juste, je finis là-dessus. Donc, il y a ce couloir, on suit, on progresse, juste comme ça, de façon chronologique. Et je trouve le passage, tout à coup, on a fini ces couloirs, on arrive à Précis, c'est-à-dire avec le jardin constitué, le piano, ces objets. On ressort, on a l'impression de la connaître et du coup de la voir, sinon de l'écouter, de la réécouter, et mieux, quoi.
Philippe Azoury,
but d'une expo comme ça.
Philippe Azoury, ému, vous? Barbarophile d'abord ou pas?
Alors du tout. Je suis peut-être même le meilleur client possible pour cette expo, parce que je dois avouer que j'ai passé ma vie à être absent de Barbara, pas évité, mais j'y suis allé cet après-midi, donc je peux vous dire.
C'est très frais.
Oui, non, c'est sur plus affaire. Mais je veux dire, j'ai un peu travaillé. Le film Amalric est arrivé on l'a vu à Cannes et tout ça. Je commence à m'y mettre. J'ai travaillé longtemps avec Gérard Lefort qui chantait du Barbara et je voulais les triper du matin au soir parce que c'est pas du tout ma culture. Et c'est vrai que je regardais les gens qui venaient visiter l'expo, les visiteurs de l'exposition, d'un certain âge, mais pas tous. public très féminin, mais pas que. Et surtout, quand les gens étaient très jeunes, ils venaient souvent en famille et ils venaient partager, j'avais l'impression qu'ils venaient partager un culte, enfin non, même pas un culte, une culture Barbara.
Ou une histoire familiale.
Une histoire familiale, complètement. Bon, moi, mes parents ne l'écoutaient pas. Effectivement, ma curiosité musicale, pourtant large, il n'y a pas un truc soudanais ou pas quoi qui m'excite, mais j'ai un peu, voilà, j'ai manqué à Barbara. Peut-être que Barbara a également manqué. Même, je pense que je dois avouer, mais je peux étaler mon inculture sans aucun problème. Je pense que j'avais même du mal à la situer sur la chronologie. Je suis très très surpris, par exemple, de m'apercevoir que Nantes, c'est 64, c'est-à-dire un an avant le premier album du Velvet.
Non, mais voilà, c'est vrai, comme ça,
et que quand elle meurt en 97, le premier Daft Punk sort quasiment au même moment. Enfin, c'est des choses comme ça qui, dans ma chronologie, moi, je n'arrive pas. Et c'est très intéressant parce qu'elle, enfin, voilà, on s'aperçoit qu'elle est quand même complètement intemporelle. Même à être chronologique.
Ce que je trouve très intéressant par rapport à cette histoire de temporalité, c'est effectivement Barbara. Il ne faut pas oublier, on a toujours dit que le yéyé à peu près, c'était la mort de tout ce qu'on a appelé certaines chansons, alors que Barbara est le contre-exemple typique. Elle, c'est quelqu'un qui a éclos, qui a tout s'est passé dans les années 60, et elle est l'anti-yéyé par excellence.
On sait qu'elle était fan de Johnny, par ailleurs.
Oui, mais tout le monde.
Non, mais. Je vous laisse cette assertion. Je vous laisse cette assertion. Non, mais à l'époque, déjà.
Ce qui m'intéressait, enfin, Philippe Azoury, ce que disait Hugo, justement, sur sa voix, parce que bon, j'avais encore en tête le film de Mathieu Amalric. C'est l'extrait vidéo qu'on voit, qui doit dater de 73, qui est un documentaire de Gérard Vigès, je crois. Et on la voit dans la voiture, on la voit au piano. Et cette scène est rejouée d'ailleurs deux fois dans le film Mathieu Amalric. Et Jeanne Balibar le joue avec une forme de gravité. Or, en fait, quand on l'entend dire ça, et c'est la même chose pour l'entretien télé qui doit dater de 65-66, on perçoit beaucoup plus de douceur. On entend même de l'humour, une pointe d'humour, même un humour vache, mais de l'humour, avec chose de cassant, mais bien, enfin voilà, qui est effectivement complètement absent de l'image un peu figée de Barbara. Et ça m'intéresse parce que je me dis, tiens, bon, j'ai relu le Segers, le texte de Jacques Tournier, qui était paru chez Segers en 68 et qui est réédité là, ces jours-ci, chez un autre éditeur dont j'ai oublié le nom, mais je vais vous dire tout de suite, parce qu'il est à côté de moi, qui s'appelle Équateur, voilà, et Tournier a une phrase magnifique, il dit, c'est une femme qui ne vit pas sa vie. Or, comment on met en scène, comment on scénographie une femme qui ne vit pas sa vie? Bah, effectivement, on scénographie une fuite. Mmh. Et c'est la réussite de la première salle avec cette carte, ces points. C'est la réussite finalement de toute la façon dont c'est pensé. C'est-à-dire, comme disait Hugo, un sort de train fantôme ou un long couloir. Mmh. À un moment, on pousse des rideaux. C'est un peu le fantôme de l'opéra. On est chez Gaston Leroux. Et puis, il y a quand même un moment donné où on a l'impression que tout ça se fige. Mais c'est peut-être musicalement aussi. Alors, moi, c'est ma distance à moi parce que effectivement, j'ai toujours pensé que Barbara était une sorte de fantasme, mais moi, j'arrivais pas à projeter les miens, mais je comprends très bien qu'on veuille fantasmer Barbara. Mais je pense qu'à un moment donné, où la scénographie n'y arrive plus. C'est-à-dire que les dernières salles, ce qui est censé représenter les grands concerts des années 80.
C'est compliqué, ça, aussi.
Et c'est compliqué. Et d'autant plus que derrière, on a un peu, comme ça, mis de côté tout ce qui tient de l'engagement, c'est-à-dire le rapport à la vie. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'en fait, c'est Barbara vivante qu'on veut, c'est pas la Barbara figée. Ouais. Et la Barbara vivante, elle embarrasse un peu la scénographie, qui prend plus de place pour ce qui est monumental, c'est-à-dire on recrée de la scène ou l'illusion de la scène, mais assez peu la combattante. Enfin, il faut aller la chercher dans un coin.
La combattante. Mathilde Serrel, vous l'avez vu, vous, dans l'Expo de la Philharmonie?
La vigilante, non, vigilée, c'est ça.
Je suis d'accord avec cette espèce d'engagement sur le côté, comme si finalement c'était une des pistes qu'à défaut de pouvoir bien l'explorer, on avait décidé de faire un appendice sur l'engagement de Barbara. Voilà. Alors, en même temps, quand on s'assoit dans ce petit appendice, on a cette interview du médecin qui l'a accompagnée dans les hôpitaux où elle est allée présenter les dangers. C'était des concerts, c'était de l'information.
Et assez tôt, c'est 87. Hein,
87,
contre le sida.
Auprès des malades du sida. Et il dit cette chose, elle a avec les malades une communauté de colère. Mmh. Et je trouve qu'il donne une clé aussi sur ce qui peut se passer avec le public de Barbara. Et on voit d'ailleurs à la fin de l'exposition, il y a un partenariat avec La Poste, j'imagine qu'ils ont eu cette idée, mais c'est quand même très bien, des messages, voilà, moi ça me racontait ça, moi c'est vous m'avez parlé de cette histoire de ma vie, effectivement. Il y a tout le texte du public, et moi je pense que la communauté de colère, on parle souvent de la tristesse, du lyrisme et tout, mais elle avait cette colère, et c'est ça en fait que le public vient chercher, et elle, elle l'amène à celui qui n'est pas capable d'aller jusqu'à elle, c'est-à-dire dans les hôpitaux et les prisons. Donc moi, c'est ça qui m'a plu dans cette partie-là, c'est qu'on avait une clé aussi sur la Barbara musicale en allant jusque dans cette salle-là.
Hugo Cassavetti, cette femme-là engagée, parce qu'il y a aussi, c'est oui, un peu avant, mais l'engagement pour François Mitterrand et cette chanson, une femme, une rose à la main, qui était vraiment importante. Moi, je m'en souviens très bien, en 1980, beaucoup de gens dont je faisais partie connaissaient les paroles par cœur. Il y a cet engagement qui va de la lutte contre le sida, mais aussi l'engagement politique.
Oui, mais je pense que c'est là, et c'est assez subtil, justement. On pourrait dire qu'il y a des manques ou des absences, je ne trouve pas, et je trouve que ce qui est bien, une fois de plus, c'est sa parole. Quand elle ne parle pas ou quand elle parle, parce qu'il y a effectivement cette interview dans la voiture qui est quand même incroyable.
Ouais, génial.
Ouais, et il y en a une autre, moi, que je trouve aussi, qui résume un peu ce que j'ai trouvé incroyable, c'est À revoir, c'est elle avec Brel. On les voit sur un plateau. En plus, derrière, on voit qu'il y a Daniel Gilbert, c'est-à-dire toute la ringardise. Oui, mais c'est pas anodin.
Ouais.
Et ces deux êtres d'exception, atypiques. Et là, on est plus proche, Philippe parlait, du Velvet. C'est là où, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelques... comme ça, des gens qui ont traversé la chanson, qui c'est nos gens présents, absents, qui ont fui et qui, là, se rapprochent des grands mythes anglo-saxons, universels, qui ne sont pas dans cette espèce de ringardise qu'on nous a vendu pendant les années, que tout s'arrêtait au Carpentier et tout ça. C'est que ces gens-là, dans ce contexte-là, et pas seulement avec Glaser, avaient cette parole totalement libre, incontrôlable, par absence et par fulgurance et tout.
Les joies
et
quand du direct, ils se retrouvent, de la télé de cette époque-là.
Et je trouve que voir les deux ensemble, ces deux physiques de, à la fois beaux, laids, comme ça, il y a quelque chose de très très fort là-dedans.
Mathilde Serrel.
Moi je suis d'accord, cette salle est très bien pensée d'ailleurs, puisqu'il y a le film avec Brel, qu'on se prend vraiment de plein pot comme ça, avec un écran immense, et puis il y a la petite fenêtre du commentaire, la petite fenêtre du bruit médiatique qui s'ouvre à la fin de la séquence pour voir quoi effectivement, cette incapacité à interroger un artiste sur son œuvre, effectivement, on les voit ramer, Daniel Gilbert et autres, et à un moment, Brel répond, écoutez, moi je sais pas, on n'est pas des gens sérieux, donc on peut pas vous répondre, et il dit aussi, moi ce que je veux faire avec ce film, c'est s'il y a quelqu'un qui s'assoit dans le cinéma et qui à un moment a une petite larme et a l'impression que le cri qu'il avait envie de pousser, bah, il a pu le pousser en voyant mon film et qu'il se sent moins seul. Alors bon, moi j'ai réussi mon truc. Et je trouve que là, il donne une clé. Je parlais de la communauté de colère qui va très bien avec son travail à lui et à celui de Barbara. Donc cette salle, en fait, elle est très importante sur le commentaire qui rate à l'époque. Mais en même temps, dans ce que nous dit Brel, on comprend tout.
Philippe Azoury.
Je reviens parce que j'ai vraiment frappé cet après-midi par l'extrait du documentaire de 74. Et elle est dans la voiture et elle répond à des questions. On l'accompagne d'un concert, d'un récital à un autre, et elle tricote. Ce qui est quand même génial. Et même, mais qu'est-ce qu'elle tricote? J'ai l'impression quand même qu'elle tricote un mur entre elle et le monde. Quoi. Elle tricote des murailles, quoi, voilà. Et c'est à la fois, ce moment me fascine quand je le vois, et c'est aussi ce qui me terrorise, je pense, profondément dans Barbara, et avec ce avec quoi il va falloir que je me réconcilie, mais progressivement, je pense que vraiment, le film de Jacques Tournier, le livre de Jacques Tournier, que je trouve vraiment être un livre magnifique, qui pourrait être un bouquin de Modiano, et qui est fantasmé, m'a déjà réconcilié avec ça. Le film de Mathieu Amalric, de façon différente, peut-être, et justement, joue trop sur ce qui m'effraie, sur cette séparation au monde, et c'est une fois de plus, c'est ce que je trouve, ce qui m'a un peu manqué sur la fin de l'exposition. J'aurais aimé un moment que ce mur qu'elle tricote soit brisé, parce qu'elle l'a brisé malgré tout. Elle l'a brisé dans l'engagement contre le sida. Oui.
Mais on peut peut-être Mathilde. Dire que la matière textuelle, c'est aussi la force de l'exposition, parce que au lieu d'avoir des commentaires conçus par la commissaire, on a des extraits de l'autobiographie inachevée de Barbara tout au long. Et là,
les fax, enfin,
et,
les choses
comme ça. Et voilà, et c'est justement en l'entendant aussi par la graphologie. Et la graphomanie parfois qu'elle se livre, et je trouve que c'est cette construction textuelle, un peu comme on avait pu voir, ça n'a rien à voir, mais avec Raoul Peck, l'intelligence avec laquelle il a mis en œuvre ces textes qu'il a récupérés de Baldwin inédits, je trouve que là il y a eu aussi dans le travail de la matière un découpage.
Je crois qu'on est d'accord, c'est que tout moment de vie est quand même bienvenu à l'intérieur de l'exposition, parce que dans une espèce de long voyage à travers la nuit qu'est l'exposition, elle vient briser ça, chaque fois finalement sa voix et sa vie, enfin son côté vivant, vient bousculer ça, et ça c'est très très beau.
Dernier mot, Hugo Cassavetti.
Pourquoi on fait l'heure dessus?
Non. Ah, vous voulez qu'on passe
vous
à la suite?
Vous voulez qu'on écoute
le Velvet? Bon, on va passer à la suite. Vous êtes sorti en ayant envie de chanter Barbara.
Non, mais moi, en fait, j'étais étonnamment satisfait en sortant, y compris par les manques. parce que je trouve que c'est important.
L'exposition Barbara, elle est visible jusqu'au 28 janvier à la Philharmonie de Paris. Peut-être quand même, alors tiens, Hugo Cassavetti, vous avez la parole, on parle de Barbara, 20 ans depuis sa disparition. Quelques mots sur Fats Domino quand même, parce qu'on nous a réclamé ça. Moi, j'étais même surpris qu'il soit si jeune en fait. À vrai dire, je pensais que c'était plutôt un encore plus ancêtre que cela, Fats Domino.
Il a 91 ans.
Oui, mais quand même. Non, mais un peu moins. Bah, ouais, bon, il était né à la fin des années 20.
Bah, après, c'est facile.
Bah, Fats Domino.
C'est énorme. Ouais. Mais non, mais je trouve que Fats Domino, c'est un des êtres les plus... c'est le pionnier le plus touchant. Mm. Parce qu'effectivement, c'est non seulement c'est un pionnier littéralement, c'est qu'il est... voilà, à tous les niveaux. C'était, on prend les deux pianistes les plus délirants, c'était Little Richard et Jerry Lewis, mais il y avait lui au milieu qui, avec son embonpoint, son numéro, c'était de pousser le piano avec son ventre et tout. Mais non, mais c'était, vrai, il était, il sortait du jazz. C'est lui, quand même, le premier qui est au piano à mélanger le boogie-woogie, le blues, le jazz et qui a trouvé ce rythme un peu syncopé dès 51-52. Et le miracle, c'est qu'il perce en même temps que forcément Presley, qui est forcément à tout. Il est beau, il est blanc, il a des hanches
un pelvis
qui bougent bien. Et pourtant, c'est cette époque où il y a bon. Et du côté des Noirs, cette époque où des Noirs en pleine ségrégation, il y a encore un moment, arrivent à devenir des stars. Et c'est ça que je trouve assez incroyable. Mmh. Chuck Berry, qui a tout ce qu'on sait de tortueux et pervers dans son écriture. Il y a Little Richard, avec, qui est quand même délirant maintenant, quand on voit la grosse folle que c'était et tout, et que ça passait. Et au milieu, il y a Fats Domino, qui était associé à Dave Bartholomew, qui était le qui conduisait l'orchestre et tout, qui a découvert le talent de ce type. Ils ont écrit un paquet de classiques et ils ont réussi à être des pionniers, à être des stars pendant un temps. Effectivement, comme il était trop gros, comme il était pas blanc et tout, ça se tarira, mais comme tous à un moment. Mais c'est, bien sûr, comme toujours, on se dit, les anthologies, il y a 800 morceaux, et on les écoute peut-être pas tous, mais il y a quand même un paquet de classiques, et c'est vrai que tout le monde le dit, même si c'était mieux de se revendiquer de Jerry Lee Lewis, de tous ces gens-là. Fats Domino a posé, je pense, les bases de, alors on les connaît tous, de Blue Monday à Blueberry Hill et tout ça, de Ain't That a Shame. Et voilà, et on sait que les Beatles se sont beaucoup référés, pas qu'à Little Richard, mais aussi à Fats Domino, dont on dit, voilà, on sait toujours que Lady Madonna est un décalque, est un décalque de Fats Domino, que et John Lennon et McCartney avaient autant Fats Domino, le gros bouboule de la Nouvelle-Orléans, qui était l'autre, le deuxième héros. Mais oui, mais c'était ça, et on l'aimait pour ça. La Nouvelle-Orléans a deux héros qui ont vraiment marqué l'histoire de la musique, c'était Louis Armstrong. Et Fats Domino, il est mort. Et c'est des monuments, et en même temps des monuments, en l'occurrence, vraiment touchants. Et c'est assez agréable. Et c'est pas un type maudit, des canons. Oui, il était juste. C'est l'embonpoint, mais dans le meilleur sens du terme. Il est aimable. Et ça fait. Voilà. Il n'y a pas de manque chez lui.
Bon. Voilà. Une belle épitaphe pour Fats Domino, dont on voulait quand même effectivement saluer ici la mémoire. À suivre dans la dispute, Mélanie de Biasio et Mount Kimby.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée ce soir à la musique avec Lilies, le nouvel album de Mélanie de Biasio, à bientôt 40 ans, la musicienne belge, gros tropisme belge finalement ce soir. Elle a longtemps été associée à la scène jazz. Elle ouvre ce nouvel opus avec un bijou, ça c'est mon avis, sous influence trip-hop, un saut dans le temps, mais beaucoup d'autres choses à entendre dans ce disque, on va en parler, mais je vous propose en effet d'écouter le morceau qui ouvre l'album et qui s'appelle « Your Freedom is the End of Me ».
How new, dame new, how could you go, twisted sick, but I'm on the floor, come rescue me. Tears in blood, but oh how they flow, reasons bleeding, tell me no more, get into me. I should have cared to your soul, but now I've lost control, and then you wander aimlessly. For you, that freedom's your goal, but I'm telling you, your freedom is the end of me.
Your freedom is the end of me.
Mélanie de Biasio. Ainsi s'ouvre ce nouvel album qui s'appelle Lilies. Mais il y a beaucoup de choses très différentes dans ce disque dont nous allons parler à présent. Et c'est Philippe Azoury, entre deux quintes de tout, ouais, qui va essayer de nous parler de Mélanie de Biasio.
Non, alors ça m'intéresse, parce que alors, Mélanie de Biasio, je l'avais un peu oublié.
Parce que Barbara, non, c'est ça que vous voulez dire? Parce que vous dites ça m'intéresse.
Non.
Ah bon, d'accord. Bon, alors, ça vous intéresse.
Bon. Non, Arnaud. Je veux rien dire de mal sur Barbara. J'étais essayé que je mettais mon surmoi
bien,
de côté.
Mais c'était très bien.
Non, c'est que Mélanie de Biasio, effectivement, je l'avais un peu oublié. Et c'est presque un problème, parce qu'effectivement, on se dit, il y a de son côté une sorte de déficit d'image, peut-être. Là, on peut le dire, la pochette de Lilies n'est pas la plus réussie de l'année. Celle du single était plus réussie. Celle de Gold Junkies qui est sortie cet été avait plus d'intensité. C'est quelqu'un dont on peut louer la discrétion, mais en même temps, ça finit par devenir un problème, parce que ça fait quand même 3 disques. Elle a quoi? Elle a
39 ans.
Non, c'était pas en termes d'âge, mais je veux dire, il y a une dizaine de... je me serais pas permis.
Ah ben moi, il faut me poser une question, je réponds, moi. Ah ben moi, du tac au tac, hein, j'ai des dossiers extrêmement bien faits.
Elle a une dizaine d'années
j'ai préparé, moi aussi, Philippe.
Puisque elle a perdu, je crois qu'à un moment, elle a perdu la voix, ou elle a failli perdre la voix aux alentours de 2002. Elle a passé en Russie quasiment une année sans chanter, sans même parler. Donc c'est quelqu'un qui a quand même déjà une longue carrière et on sent qu'il y a quelque chose qui prend pas. Moi, si Arnaud, vous me l'aviez pas, si vous
m'aviez imposé.
Proposé, on va dire. On m'impose jamais rien.
Ah, on verra ça.
Proposé pour aujourd'hui, je sais pas. Enfin, effectivement, j'avais le disque chez moi et je m'étais pas rué dessus. Et bien mal m'en a pris parce que je le trouve très beau, ce disque. Effectivement, j'ai l'impression qu'elle. Alors ça, on ne cesse de le dire avec elle à cause de cette histoire d'extinction de voix qui a duré quasiment une année. Mais c'est vrai qu'elle s'est jouée avec les silences, qu'elle s'est amenée le souffle. Le morceau qui s'appelle Lilies, qui est pour moi le plus impressionnant du disque. Elle l'appelait Lilies, on doit avoir une certaine lucidité aussi là-dessus. Enfin, on sait que ce morceau est important. On sent le souffle à la fois de l'enregistrement, du piano. On sent qu'elle a envie de casser avec cette étiquette un peu jazz. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qu'on entend derrière le mot jazz, c'est surtout pas l'irruption ou la violence, mais au contraire, une sorte de calme un peu soft, un peu au KLM, quoi, on va dire. On sent qu'elle a envie de casser avec ça. Elle enregistre le disque dans une cave, avec des micros certains à 100 euros, enfin, ce qui est à la fois une somme pour beaucoup de gens, mais qui est quand même, en termes de micros, c'est pas terrible. Pour avoir envie, justement, de s'approcher de quelque chose dont on voit bien que l'horizon, ça pourrait être, je sais pas, Nick Cave, Johnny Cash, même peut-être les Depeche Mode quand ils arrêtent de faire quelque chose de synthétique, pour arriver, enfin, en tout cas, voilà, une sorte de... Moins de jazz que de blues, même si les deux genres sont ça. Et je dois avouer que voilà, moi je trouve l'album arrête pas de me, j'y retourne sans arrêt là depuis une semaine. Je trouve pas simplement séduisant, je trouve qu'il est habité. Il y a quelque chose dans ce disque. Il manque peut-être un morceau ou deux, un truc un peu qui surprendrait, qui s'imposerait. Voilà, il y a peut-être encore cette timidité quoi qui la bloque. Mélanie de Biasio.
Je reviendrai vers vous, mais d'abord maintenant, Hugo Cassavetti sur Mélanie de Biasio.
Bah oui, je suis un peu étonné par déjà de dire qu'elle perce pas, parce que je pense que c'est bien sûr qu'elle a envie de marcher, mais je pense pas qu'elle vise le tube planétaire non plus.
Non, mais on peut pas dire que sa notoriété soit absolument écrasante. Quand même,
non,
Hugo.
Mais ça monte lentement, mais lentement. Peut-être sûrement, exactement comme elle, quoi. Mais c'est drôle parce qu'on vient de parler de Barbara, c'est peut-être pas si éloigné. Non. Ce genre de personnage, elle est quand même très. Elle est très spéciale. Je sais pas si vous l'avez rencontrée. Elle est pas simple. Ouais. Elle se cherche depuis longtemps. L'histoire de l'extinction de voix, maintenant, on en parle tous comme si c'était une évidence. Il ne faut pas oublier que c'est bien assez avant, quand on ne la connaissait pas. 2002, c'est devenu un peu du bon storytelling, même si c'est vrai, l'histoire. Mais en tout cas, oui, qui lui a permis de se confronter au silence, au mutisme et donc de jouer avec ça. Mais je trouve que pour l'avoir vue sur scène, ce qui m'intéresse chez elle, c'est que justement, elle exige, comme souvent les bons disques, quoi, qui ne sont pas juste de la pop simple, elle exige une attention, une immersion, que ce soit sur scène. À la fois, je sais, la première fois que je l'ai vue, ça m'a un peu agacé, ce public un peu. Oui et tout, parce qu'elle-même, elle. Mais non, mais il y a un côté un peu comme quoi. Elle est complètement. Et tout en noir. Et sauf que, au bout de 3 minutes, on ricane plus, on se dit, mais finalement, ils ont peut-être pas tort, quoi, même si c'est pas très drôle, quoi. Et après, on est emporté par cette voix qui monte, et c'est ce que j'aime, parce que moi, je suis pas un grand fan de ce qu'on appelle les chanteuses de jazz, et Dieu sait qu'on en bouffe, ni de ce nouveau truc, de tous ces néo-blues soulmen. On en a un
on
par semaine
plus,
maintenant. Et je parle pas que de Dragon Bone Man et tout ça, c'est terrible. terrible, quoi. Des... il sort d'un champ de coton, il est génial. Et là, on s'approche de. Non, mais il y a un côté comme ça, de qu'il soit blanc ou là, mais. Non, mais où est-ce que je veux dire, il y en a des tonnes maintenant. C'est le syndrome de Royce, quoi.
Tout le monde devrait rire à cette vanne.
On était plutôt interloqués.
Mais
non, mais que maintenant, on est en train de vous faire croire qu'il y a une Aretha Franklin à tous les coins de rue, sauf que non.
Non.
Et que elle, on espère, on sent qu'elle ne veut pas, être, la chanteuse de jazz de plus. Et elle cherche quelque chose. Elle est belge. En plus, juste pour l'anecdote, je trouve ça drôle qu'elle a une sœur jumelle et qu'elle s'entend pas, qui est blonde, qui joue avec Agnès Obel et tout. Oui, mais elles ont rien en commun. C'est assez. C'est assez curieux, quoi. Et on voit qu'elle est compliquée. Et c'est ce côté compliqué qui se cherche, qui est jamais satisfaite, qu'on entend dans cette musique qui est à la lisière. Elle veut pas être trop blues, elle veut pas être trop folk, elle veut pas être trop
on
jazz.
Voit qu'elle a envie de salir. Et
elle cherche quelque chose. Et je trouve que sur ce disque, je trouve qu'il y a plutôt un progrès. Il y avait ce disque comme ça, intermédiaire, très long, une longue suite de 24 minutes, un peu expérimentale.
Black and City.
Voilà, qu'elle a lâché comme ça. Il en reste un petit bout dans justement Golden Reste. Et ça, là, je pense lâcher et délivrer pour faire ce disque qu'elle a fait assez librement sur la durée, sur la longueur. Mais je pense qu'elle est en train de construire progressivement une identité, une vraie identité qui a sa place quelque part. Et l'on ne se dit pas, tiens, c'est la nouvelle machine ou le nouveau machin.
Non, elle est
cette singularité. C'est vraiment la seule chose qu'on cherche tout le temps. Des gens qui ne sont pas juste le nouveau machin ou la nouvelle machine, non ?
Bon, je crains qu'on ne soit d'accord, mais je ne sais pas. Peut-être que Mathilde Serrel dételle Mélanie de Biasio.
Non, moi, je suis d'accord. J'aime bien la difficulté d'accès. C'est effectivement pas un album qui type. Quand elle dit qu'elle a voulu faire un album comme dans une bouche, c'est vrai qu'on y est dès le premier souffle.
Difficulté d'accès, je crois pas. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de couches. J'avais le mot en anglais dans la tête, mais beaucoup. Je pense qu'il y a un accès extrêmement facile, mais qu'après on peut plonger et prolonger l'écoute, et je trouve qu'elle est de plus en plus riche.
Il y a rien qui s'impose, moi, je trouve que.
Je pense que le morceau qu'on a écouté qui ouvre l'album, pour moi, j'étais absolument conquis immédiatement à la première
moi,
écoute.
J'ai été conquise beaucoup plus tard, en fait.
D'accord.
À l'écoute mais
conquise
du disque,
quand même.
Mais conquise quand même. Moi, j'ai All My World, voilà. J'allais dire All My World. Pour moi, c'est. Non, mais c'est vrai, c'est une poétesse sorcière, et c'est là qu'on entend. Moi, j'entends Julie Cruz, Falling in Love, qu'on entend dans la bande-son de David Lynch.
Falling in Love.
Du morceau. Oui, pardon.
Mais elle dit Falling. Non, mais soyons précis, Mathilde.
Elle dit Falling, et à la fin, elle fait In Love. Enfin, vous voyez. Ouais. Moi, je trouve que c'est à ce moment-là, dans l'atmosphère lynchienne. D'ailleurs, elle a joué du Angelo Badalamenti en 2015 à Bruxelles, qui est le compositeur attitré de Lynch. Moi, c'est à ce moment-là que je suis rentrée par une porte dans son album et que j'ai eu envie d'y retourner, et aussi sur des choses très simples comme le Sitting in the Stairwell, avec ce blues, ce claquement de doigts. Et on est à l'épure, et là, tout d'un coup, je la découvre. Et je peux repartir à ce premier titre qui est très beau, vous l'avez dit Arnaud, mais je trouve qui me renvoie à des portichets de riz, je veux dire. Et donc, je rentre pas tout de suite dans sa singularité.
Voilà. D'accord, bon, moi j'y plonge complètement. Boris Pinon n'a pas d'avis concernant Mélanie de Biasio ?
Pas pour le moment, Arnaud.
Vous adhérez aussi. Hein.
Moi j'étais fan dès la première écoute.
On adhère au bureau depuis la première écoute. Mais non, mais
quand Arnaud qui parlait d'archive ou de trip-hop.
Oui, on y est. Il y a quelque chose comme ça.
Bah, ça renvoie un peu à l'album, justement, on parlait de Portishead, de l'album de Beth Gibbons, elle en avait fait un, prix-là. Oui. Mais ce que je vois intéressant dans le morceau Sitting in the Stairway, c'est justement, c'est là où elle va le plus loin possible là-dedans, et s'est dit, voilà, je sais le faire, je pourrais aller plus loin là-dedans par rapport à ce que je disais tout à l'heure, j'en fais un comme ça, et sans, justement, elle pousse jamais trop, quoi. Et ça, je trouve que c'est remarquable. Parce que c'est la tentation quand on fait ce genre de musique, d'un moment, de vouloir faire une petite démonstration.
On pourrait dire, alors, à l'inverse, mais c'est pour titiller un peu, que chaque morceau est presque une démonstration de ce qu'elle pourrait faire dans un registre. Elle pourrait, tout l'album pourrait être à l'image de ce premier morceau, ce qui n'est pas du tout le cas, à l'album de Sitting in the Stairway. Mais à chaque fois, elle ouvre des portes, comme de cette grande maison, elle a racheté le consulat d'Italie, j'ai lu, je ne sais pas, c'est pas à Bruxelles, il n'y a pas de consulat à Bruxelles, c'est la capitale, donc je ne sais pas comment elle a trouvé un consulat d'Italie à Bruxelles, mais en tout cas, non, c'est à Charleroi, sa ville, c'est pour ça. Voilà.
Elle vient tout juste de s'installer à Charleroi.
Elle revient de Bruxelles. Non, elle est de Charleroi. J'ai les dossiers, j'ai préparé également. Son âge en état civil. Ouais. Charleroi. Elle est de retour à Charleroi, où elle a acheté une grande maison avec plein de pièces. Et j'ai l'impression que ce disque était aussi un peu ça. C'est ouverture. Allons visiter des atmosphères. Oui, oui. En étant, je crois qu'elle l'a enregistré à peu près seule, cet album-là, Philippe Azori.
Oui, je crois qu'elle l'a volonté fait, en tout cas, enfin, Hugo a raison. C'est-à-dire, elle l'a fait seule et surtout sans pression. C'est-à-dire, en refusant, doute même une deadline et en tout cas, refusant d'avoir à rendre des comptes, ce qui rend le disque effectivement sympathique, le mot est pas bien trouvé, mais non. Parce que c'est pas ça, mais enfin qui lui donne une prestance. Moi je dois avouer que j'ai beaucoup donné dans le trip hop à l'époque.
Et moi, vous avez été très bristolien.
Et
moi donc
j'ai un peu lâché l'affaire il y a quand même très très longtemps. J'ai un peu du mal à voir
le
trip hop a lâché l'affaire un peu. J'avais lâché un peu avant parce que je suis très snob. Pire ouais. que Hugo Casavetti, mais qui est dans snobisme.
Oh, ça va être dur,
mais,
ça.
Mais si, je peux être vraiment. Je peux être une horreur.
On fera les trophées à la fin de l'année.
Dans le snobisme un peu con, je peux être très très fort. Mais j'avais déjà lâché le truc. Je le vois revenir. Le trip hop.
Oui.
C'est vrai qu'il y a un peu de cet album.
Non, avec, j'ai pas entendu Hugo.
Mais un peu quand même.
Faites-nous profiter.
Après. T'as écouté Hugo Jabou qui est sur Black As Ever Black. Je me dis, ouais, on n'est pas à l'abri. Toi qui justement disais, tiens, enfin, on est une chanteuse qui est sans étiquette. On n'est pas à l'abri de la nouvelle chanteuse trip hop.
Je n'ai pas écouté Jabou.
Jabou volontiers.
Jabou, j'en ai bavé. Et en fait, c'est là qu'on s'aperçoit que ce truc a le trip hop à 20 ans et que, et oui, même un peu plus, maintenant 22, 23, 24, et que ça y est, ça va revenir.
Ça va faire 25 l'an prochain, si je compte à peu près, même. Alors, vous avez épuisé un joker, puisqu'à la dispute, on se vouvoie, même si on se tutoie dès que les micros sont coupés.
Même quand on est Libanais.
Oui, même quand on est Libanais, même quand on est Tunisien, il n'y a pas d'autre joker que ça. Vous vouliez rajouter quelque chose, ma chère Mathilde Serrel ?
Écoutez, l'idée que la chanteuse de jazz soit une sorte de figurine porte-clés à laquelle elle a échappé, je trouve ça super. Et je me dis en même temps...
Il y a très beau morceau de jazz dans cet album, en plus.
Voilà, le mieux, à mon avis, c'est un album qui requiert une installation sonore de qualité, qui requiert, à mon avis, de la voir réellement sur scène, et qui requiert aussi... Je pense une écoute urbaine. Moi, je pense que c'est
en
un
voiture,
album cinématique.
Avec un sound machine.
Elle travaille avec Cinematic Orchestra. Enfin, voilà, j'écouterai pas dans des conditions prosaïques et mal compressées. C'est ce que je conseillerais.
Est-ce qu'on pourrait rouler en voiture dans le
studio
Darty.
Ah oui.
C'est possible.
Alors, vous irez donc, ma chère Mathilde Serrel, le 8 novembre à Fribourg, le 9 novembre à Zurich, le 24 novembre au Merlan à Marseille, le 25 au Théâtre Municipal de Fontainebleau, le 4 décembre, vous serez donc au Trianon de Paris, et les 17, 18, 19 décembre, vous vous installez à Bruxelles pour les trois concerts de Mélanie de Biasio, Lilies, le nouvel album est sorti chez Piasse.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette dispute consacrée le mardi soir à la musique avec l'album Love What Survives de Mount Kimby, duo électro-anglais formé en 2008, né de la scène post-dubstep. Bon, ils en sont sortis, heureusement. Non, là, il n'y avait plus grand monde du tout. Ils ont quand même attendu 4 ans entre le deuxième album et ce troisième qui nous arrive aujourd'hui. On y entend des sonorités, des ambiances assez variées. Donc, on n'aura forcément qu'un exemple avec le morceau qui, là encore, ouvre l'album « 4 Years and 1 Day ». Thank you. Voilà pour Mount Kimby. Voilà comment on ouvre un disque avec ce duo-là. Ah, Hugo Cassavetes se redresse, va vers son micro et plonge.
Ah, c'est pour moi, ça?
Bah, je sais pas, vous êtes redressé si vivement,
Mathilde,
Hugo.
Il y avait apparemment beaucoup de références à lâcher sur ce disque. Mais je pensais qu'elle allait ouvrir.
Oui, mais elle a un point de pénalité, donc c'est à vous.
Ah.
J'ai ouvert Barbara, enfin, si tu peux me permettre.
Oui, le musique, c'est cette ouverture de disque, j'ai l'impression que ça ouvre sur beaucoup de disques que j'ai depuis 40 ans. Non, mais c'est vrai. Et Philippe parlait du retour du trip-hop. Non, mais j'entends beaucoup de choses dans ce disque. C'est vrai que déjà la définition même de post-dubstep, ça sourit. Mais ça fait sourire. Bon, je reviens. Mount Kimby est un groupe assurément intéressant, ce duo et tout. Après, moi, je pense qu'on commence à le savoir, j'ai une espèce d'attachement. On a parlé de Barbara, on a parlé de gens comme ça, aux individualités, aux personnalités, des gens qui me racontent des choses. Et moi, les disques semi-incarnés, comme ça, j'ai toujours un petit problème. Après, je trouve qu'il y a individuellement des bons morceaux. Mais sur la distance, le problème que j'ai avec ce genre de groupe, c'est qu'à un moment, au bout de trois écoutes, je saute, je repère trois, quatre morceaux. Et voilà, donc ça va être le morceau de Mika Marilyn, à un autre moment, ça va être un autre. Mais il y a un moment, sur la durée, je trouve que ça tient. Objectivement, ils ont quand même tissé ce son, donc une fois de plus, qu'on appelle post-dubstep. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire.
Non, mais ils en sortent depuis longtemps.
Ça veut rien dire. Mais en gros, on savait que ça voulait dire après. C'était un moment où, en gros, les disques de dance n'étaient plus faits pour danser, c'est ça ?
Non,
avec énormément
c'est après la drum
and bass,
de
textures et de sons. Ce qui me fascine avant tout avec ces groupes-là, c'est toujours, et on peut prendre un exemple, vous allez peut-être hurler, c'est
allez,
ce qui se passe avec quelqu'un comme LCD Sound System, avec James Murphy, c'est que tous ces gens, même Moby avait ça, là je prends les plus évidents et les plus gros, mais de toujours commencer à inventer, et c'est très bien, défricher des sons nouveaux dans la production, et à la fin, ils reviennent, on a toujours été baignés, ce qu'on a dû entendre beaucoup très jeunes, et eux, c'est évident, ils arrivent de cette génération, je ne sais pas, post-Cold Wave et tout, et ce qui est très étonnant, on est dans cette musique avec des sonorités très très modernes, et avec tout à coup ces flashs de, j'entends parfois Cure et des choses comme ça.
Mais quand est-ce qu'on doit hurler en fait dans votre phrase. Quand est-ce qu'on doit hurler dans votre phrase ? Je vous dis, vous allez peut-être hurler, mais
parce que j'ai toujours l'impression, souvent avec ces groupes-là. Non, mais parce que je lis un peu partout, Mount Kimby, c'est des génies absolus.
Ah d'accord.
Quand on nous a conviés à venir parler de Mount Kimby, et je trouve ça plutôt bien. Effectivement, c'était le choix d'un absent, votre collègue Joseph Ghosn. C'était d'avance, il avançait, c'est le plus grand disque de l'année, c'est déjà d'office. Et là, je suis un peu plus sceptique, quoi. Ou alors, je me dis, c'est pas ce qui me parle et qui me touche immédiatement. Je trouve qu'il y a des belles choses à réécouter là-dessus, mais j'entends qu'il y a quand même un vrai travail sur le son, mais après ce côté j'aime bien les œuvres, quoi. Et là j'ai l'impression que ça a trois fonctions, ce genre de disque. C'est alors il y a des gens qui vont le prendre comme un concept album moderne avec des guests, des invités. Ils sont plutôt bien choisis, de Kid Krul à Adrien Belancy, James Blake.
C'est la caricature.
Il est la caricature. C'est ouais, le morceau, on dirait presque du Bob Marley, où il se met à chanter avec sa voix de tête et tout. Mm-hmm. Mais James Blake est un
peu
Eddie
Holman aussi. C'est la soul lointaine.
James Blake, je trouve qu'à la fois est quelqu'un de remarquable. C'est probablement une des voix les plus intéressantes et les plus importantes qu'il y a sur lui. Et en même temps, je suis très honnête, je prends pas un plaisir immense à l'écouter. Et surtout, je lui en veux d'avoir créé toute une vague maintenant de gens qui arrivent avec des Asgir et tout ça, je trouve ça insupportable, quoi. Alors là, ce qui est bien, c'est que là-dessus, on l'a en petite Bose emballé dans la musique de Mount Kimby, mais je vois pas tellement la continuité dans ce disque. Je vois beaucoup ces bandes démos de gens très très malins, très très doués. C'est pas malin, mais doués. En plus, c'est drôle, ces deux Anglais, il y en a un qui est à Los Angeles, l'autre qui est à Londres, ils s'envoient les trucs, et on sait pas si c'est juste, ça va servir de boucle pour les trois années à suivre, pour qu'ils aillent remixer les autres. À l'ère où les gens n'écoutent plus des disques tels quels, c'est bien parce qu'on va choisir les 2-3 morceaux sur son site de streaming préféré. Et voilà, c'est pas un mauvais disque, mais je pense pas que ce soit l'œuvre parfaite, aboutie, que beaucoup ont l'air de prétendre. Voilà.
Philippe Azoury sur Mount Kimby.
Je suis à la fois.
Alors, avocat Joseph Ghosn, Grazia est représenté de toute façon.
Oui, par ailleurs, c'est un disque que j'aime beaucoup, sans quoi j'aurais hurlé. Je suis en partie d'accord avec ce que dit Hugo. Mais pas beaucoup, finalement.
Une petite partie, donc.
Une toute petite partie, c'est qu'effectivement, je crois que je ne l'ai jamais, ayant téléchargé légalement l'album et sans vergogne, je ne l'ai jamais écouté dans son cheminement, son chemin de fer. Je savais pas du tout que ce morceau était celui qui ouvrait, par exemple. Voyez-vous. Et c'est vrai que j'ai eu tendance à tomber amoureux immédiatement de 3-4 morceaux. Effectivement, le morceau avec King Krul qui s'appelle Blue Train Line, Delta que je trouve très beau, Marilyn avec Mikachu, Tame qui est c'est comme ça qu'on dit.
Tamed.
Dont je pensais d'ailleurs qu'il venait refermer l'album, mais en fait, non.
Oui, c'est une fausse fin, je suis d'accord.
Apparemment, il y en a un après.
Après Tamed, on s'ennuie un peu.
J'ai un peu révisé sur Discogs tout à l'heure. Donc voilà, c'est vrai que je me suis fait mon album, mais ça, c'est devenu une mauvaise habitude, sans doute, en tout cas, voilà. Ce que par contre, effectivement, j'en garde, c'est-à-dire ces 5-6 morceaux, ils m'impressionnent beaucoup. Et il m'impressionne sur quelque chose, que, justement, enfin là-dessus, je suis pas du tout d'accord avec Hugo, c'est la narration. C'est-à-dire, et c'est pas nouveau chez eux, chez Mankimbi. Moi, ce qui m'intéressait en voyant arriver, quand ils ont commencé cet été à distiller un peu des extraits de l'album, c'est comment ils arriveraient à dépasser un morceau qui était sur le précédent, qui s'appelait Made to Stray. Je sais pas si vous vous souvenez, qui était, donc déjà, parce qu'ils font un album tous les 4 ans, tous les 3-4 ans, c'était 2013, et qui donne une espèce de truc, comme ça, très très clair, avec des mêmes, on a l'impression que des cristaux venaient vous exploser dans le cerveau, et que tous les DJ qui ont passé ça, souvent en fin de set, et assez souvent d'ailleurs, en plein air, des choses comme ça, voyaient une foule entière fusionner sur ce morceau. C'était absolument irrésistible. Et c'est typiquement le type de morceau dont on ne se remet pas, en électro. Là, j'ai l'impression qu'ils ont compris, ils n'ont pas essayé de refaire Made to Stray 2, 3, 4, 9, et qu'ils ont fait, effectivement, alors ils ont un peu saucissonné, c'est pas toujours égal, ça s'est un peu refermé, il y a quelque chose un peu d'étouffé dans le son, mais il y a une précision d'écriture, notamment dans les moments avec King Krul, que je trouve vraiment, et l'album de King Krul lui-même, je pense d'ailleurs, plaira
nous
plus
en parlons
à,
dans 15 jours, Hugo, oui, voilà, parce que cet album,
il a plus ce côté d'identité, mais je trouve que voilà, en tout cas, ils ont ce pouvoir de narration que je trouve assez rarement et qui manque peut-être à Mélanie de Biasiou.
Mathilde Serrel sur Mankimbi.
Alors, on parlait de référence, il y a effectivement une sorte de...
Là, c'est l'annuaire, là.
De train fantôme, là, oui,
il y a un annuaire.
Oui, on peut faire
il y a le Six Marimbas de Steve Reich, qu'on entend très bien dans le morceau Beat. Il y a aussi du Chic Chic Chic, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce groupe de Brooklyn qui est capable de faire plusieurs morceaux en un seul maxi. Et il y a cet élan-là, il y a évidemment le Grauzone de Stéphane Escher, on entend beaucoup du Suicide, Sherry, j'ai pensé à ce titre qui est sur la bande son du film sur Basquiat, la Downtown 91. Donc les références sont là, plus les références contemporaines. On entend The End of To You de Métronomie qui m'est venu. Il y a beaucoup de Aéroplane aussi, si vous souvenez, donc cette petite formation belge qui s'est divisée depuis. Donc effectivement, ça plane en référence. On est chez Warp, quand même écurie électronique. Donc c'est normal aussi que ça tisse le paysage électronique contemporain et que ça s'ancre dans l'histoire de la musique électronique. Moi, je trouve ça intéressant. Parce que, voilà, moi, j'aime la recherche sonore. Pour le coup, c'est pas un disque, c'est un disque que je trouve trop cerveau, quoi. Mais je le trouve intéressant sur le plan de la recherche sonore. C'est-à-dire l'idée d'aller dans les machines. On est un peu dans le cœur des machines. On est dans l'enfer des machines. On parlait du chant de la machine dans la BD de David Blow sur la musique électronique. Pour moi, c'est un peu le chant de la machine et c'est le chant des enfers, quoi. On va dans les entrailles de la machine. On sait pas ce qu'elle nous prépare et ça sent un petit peu la fin du monde. Donc, moi, j'ai aimé pour cet enfer-là. Et effectivement, je trouve que le titre avec King Krul qui s'appelle Blue Train, il y a la force un peu slammée d'une Kate Tempest. Ils l'emmènent sur un terrain nouveau, donc ils savent aussi être metteurs en scène des featuring sur ce disque. Donc il y a effectivement de façon morcelée des choses très intéressantes.
Moi, j'ai vécu une expérience de type Mélanie de Biasio pour vous, Mathilde Serrel, parce que moi, en fait, il m'a fallu du temps. Les premières écoutes, j'ai vraiment ressenti ce que Hugo Casavetti a dit fort bien, donc je ne vais pas le répéter. Et puis, je ne sais pas, c'est peut-être le disque qui est mutant ou mes oreilles qui ont changé de forme, allez savoir, mais j'ai trouvé de plus en plus intéressant cet album et j'ai l'impression même... Je me suis dit, mais c'est vraiment celui-là que j'ai écouté. J'avais l'impression que les morceaux avaient changé. Alors, ce qui n'est évidemment pas le cas. Ce qui veut dire qu'il y a quand même aussi, me semble-t-il, quelque chose à aller creuser et que les références évidentes, aussi, vous n'avez pas cité, mais Hugo l'avait fait, les Cure, ou même Joy Division, ou les lignes de basse, enfin.
Oui, il y a la New Wave.
La New Wave est quand même très, très, très au complet. Et ça, c'est quand même ça qui m'a formé, on va dire, cette musique-là. Et il m'a semblé entendre tout à fait autre chose. Alors, je ne m'explique pas vraiment et je vais continuer à écouter ce disque. En fait, après l'émission, ce que j'aurais pas imaginé il y a 15 jours quand je l'ai écouté pour la première fois, je l'ai beaucoup réécouté depuis. Il mute. Vous comprenez ce que je dis, Philippe Azoré?
Je joue la même weed que vous.
Oui, d'accord. Bon, très bien. Hugo Casavetti, vous n'avez pas eu cet effet, vous? Vous n'avez pas eu cet effet?
Non, mais.
Vous avez
je
muté
juste un truc.
Ou vous avez muté.
Oui.
Blague de spécialiste.
Donc je pose jaboux et muté.
Ouais.
Non mais je me demandais juste, non mais c'est juste un clin d'œil, mais est-ce que c'est un hasard si le fameux Blue Train Line, on nous parlait du retour 25 ans après, que le Massif avait attaqué avec Blue Line.
Oui, oui.
Non mais, non mais après, voilà, je pense qu'il y a énormément de choses. De petits, alors c'est les références.
Cherche à s'inscrire dans ce
après, j'aime bien les disques à référence.
Oui. Et même c'est vrai qu'il donne cette illusion à un moment donné de marcher dans Londres ou même dans Hackney ou East London et d'entendre des cultures ou des sons différents émerger. C'est peut-être son défaut et c'est aussi ce côté voilà, enfin j'ai quand même l'impression c'est un vieux cliché, le côté le son de la rue, parce que quand on marche dedans ça porte pas forcément le bonheur, mais malgré tout sur celui-là quand c'est fort c'est ça.
Dernier mot, Mathilde Serrel.
Je parle d'un album de recherche. Ils disent quand même qu'ils sont partis d'un synthétiseur. Hein. Delta, c'est un morceau machine. Mmh. Et en fait, c'est aussi une réflexion sur la façon dont ils vont commencer à construire leur univers musical d'après justement cette fameuse histoire de post-dubstep. Donc c'est peut-être un disque intermédiaire et pas un disque de maturité, n'est-ce pas ?
Ah, oh, c'est une conclusion magnifique pour parler de Love What Survives de Mankembe qui est sorti chez Warp. Des concerts aussi annoncés le 4 novembre à Bruxelles, 17 à Zurich. Ils suivent Mélanie de Biasio, hein, vous avez remarqué. 19 novembre, cabaret aléatoire à Marseille. 21 novembre, Rockstore.
Oui, ils vont pas à Merlan.
Donc, non, mais ils sont quand même à Marseille. Et ils vont au Rockstore à Montpellier, ce qui nous intéresse quand même beaucoup le 21 novembre. Bon, c'était le grand Odéon de notre temps. 24 novembre, à la Tabac à Biarritz. 25 novembre, Trianon, comme Mélanie de Biasio. Ce sera donc à Paris. Et puis 28 novembre, au Grand Mix à Tourcoing.
À Tourcoing, donc.
À Tourcoing, mais pas de jingle. Alors on va
allez,
continuer.
Hop, à Tourcoing.
Bon, on va continuer, c'est le jeu de la dispute. On conclut avec Grégoire Difior qui nous rappelle, comme chaque soir, la question qui était posée hier. Et en plus, le bonus, c'est qu'il nous donne la réponse. Grégoire, c'était quoi la question ?
Pour quelle raison la rénovation de l'antenne Richelieu de la BNF a récemment fait polémique ? Et la réponse était car elle prévoyait la destruction d'un escalier du 19e siècle.
Ah, c'est pour ça, j'avais tout à fait oublié. Bon, on fait gagner ce soir des invitations et des places de cinéma pour le film Makala d'Emmanuel Gras. Avant-première qui aura lieu au Forum des Images le 5 novembre à 19h30, ce sera dans le cadre du festival de la SCAM, les étoiles du documentaire. Quelle est la question, Grégoire ?
Quel animal est le personnage principal d'un précédent documentaire du réalisateur ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Les machines sont reparties, on aura même un générique fin. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur le site franceculture.fr à la page de la dispute. Dispute qui sera demain à 19h consacrée aux arts plastiques. On sera avec Corinne Rondeau, Stéphane Coréard et Florian Guettet à notre affiche performance. Les collections du Centre Pompidou au Tripostal à Lille. Étranger résident à la collection Marine Karmitz, c'est à la Maison Rouge. Et être Pierre, c'est au musée Zadkine.